When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Je suis son Paul McCartney, son Keith Richards, son The Edge. Il est le cerveau, je suis son bras droit, voire bras gauche parfois. Incarnation du talent tout en modestie, de la classe tout en simplicité. Excusez-moi, je me suis gouré de planning. En fait, je pensais cette semaine que je le faisais avec Cyril. On va reprendre. Ilem à Chardin, mon Jonathan, mon Franck et Adèle. Comment ça va, Maxime Dupuis?
Ça va, mais t'as cru que tu le faisais avec notre chef d'édition de l'émission, Adrien Yo, là, je pense, du coup.
Pourquoi?
Stone, Chardin, t'as pas sorti Benabar aussi?
mais Maxime, je sais que t'aimes plutôt les 2B3, Stone et Chardin et David et Jonathan. Enfin, je sais que c'est ta cam. Plus c'est que Paul McCartney, Chris Richards et The Edge, du coup, j'ai voulu te rendre hommage.
C'est ma cam, voilà, merci, c'est un bel hommage. Et ce que j'aurais aimé, c'est que tu fredonnes un petit peu, ce qui aurait été plutôt sympa. Parce que tu as.
Et tout bichet, je peux. Hein.
T'as un bel organe.
Partir un jour sans retour. Tu te souviens de ça, Maxime?
Ah, je me souviens bien, toute ma jeunesse.
Mais attends, t'avais déjà 40 ans.
Ah, j'aurais été sûr que t'allais dire ça.
Parce que moi, c'est ma jeunesse.
Oui, je pense que toi, t'étais en plein dans la cible. Et je pense que toi, justement, t'étais en plein dans la cible et en plein dans l'écoute, j'ai envie de dire.
En plein dans les abdos aussi. J'allais à la salle tous les jours. Je peux te dire, à 12 ans, j'ai jamais été aussi musclé. Depuis, c'est dommage que ça n'ait pas continué parce que, bon, du coup, je me suis affaissé.
C'est un beau mot, ça. Tu t'es affaissé.
Je me suis affaissé. Bon, Maxime, on va parler de quoi aujourd'hui?
On va pas parler de grande musique, mais on va essayer de parler de grand football. Enfin, grand football.
Si.
Ça dépend des sujets. On vous dit pas lesquels, vous essaierez de trouver. On va commencer d'abord, évidemment, par parler un petit peu Ligue des Champions, mais surtout. Neymar, on pourrait parler de malédiction, on va parler de ses blessures à répétition et d'essayer d'un peu décrypter cette situation qui est pratiquement unique, j'ai envie de dire, parce que, en gros, pour faire simple, à tous les printemps, il a un problème quasiment, sauf l'année où il n'y avait pas de match, c'est-à-dire en 2020, et donc le PSG se retrouve sans Neymar pour au moins le match aller face au FC Barcelone. Alors, on va poser une question simple, à qui la faute, simplement?
On ira ensuite à Nantes où Camboiré a remplacé Raymond Domenech dans une semaine qui était complètement folle, complètement surréaliste du côté de la Jaunelière. On va se poser la question, est-ce que Camboiré peut sauver le FC Nantes? Qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, l'ami Camboiré? On arrivera très rapidement à la conclusion que ni Nantes ni Camboiré n'avaient visiblement le choix dans cette affaire-là. Et on terminera avec un grand sujet comme on les aime dans le FC Stream Team, Maxime.
Voilà, le pire, c'est ni le choix et peut-être même l'envie. Et c'est presque ça encore plus.
C'est vrai.
Le dernier sujet, on va repasser un peu, on va monter un peu au-dessus. On va parler histoire, on va parler du FC Barcelone et du Bayern Munich. Le Bayern Munich qui a réussi un formidable sextuplé en devenant champion du monde des clubs jeudi, en battant les Tigresses d'André-Pierre Gignac. On va se poser la question de la place de cette équipe dans l'histoire, tout simplement. Toujours particulier de décider. Caler des Bayern Munich, des générations de Bavaroises dans l'histoire, parce que c'est une équipe quand même à part. Et tout simplement, on va se poser la question suivante, est-ce que ce Bayern Munich est plus fort que le Barça de 2009 qui aurait aussi réussi le fameux sextuplé?
Allez, on va démarrer avec Neymar, donc touché aux adducteurs, forfait pour les 4 prochaines semaines, donc pas de 8e de finale aller, peut-être pas de 8e finale retour non plus face à son ancien club, le FC Barcelone, donc forcément il l'a plutôt mal pris, le PSG aussi. Et ce n'est pas la première fois qu'il va rater un choc. On se souvient, sur les 3 derniers huitièmes de finale, Neymar n'en a joué que… il n'a pas joué face à Manchester, ni l'aller ni le retour. Il a raté le retour face au Real Madrid. Dortmund, il a joué les deux. Et donc, à chaque fois qu'il joue, le PSG se qualifie. Et quand il ne joue pas, le PSG reste à quai. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, hein, à quelques jours d'affronter le FC Barcelone. Maxime, ces blessures à répétition de Neymar, qu'est-ce que ça dit de lui? Qu'est-ce que ça dit du PSG? Qu'est-ce que ça dit de sa fragilité? Est-ce qu'il est le principal fautif aujourd'hui, Neymar?
Alors, c'est compliqué parce qu'on va essayer de déjà dépassionner le débat. Parce que dès qu'on parle de Neymar, on sait qu'il y a beaucoup de passions, les pour, les anti. Déjà, la chose à laquelle je veux absolument pas, que je ne pointerai pas, c'est la malédiction. Parce que si on parle de malédiction, c'est trop simple. On dit le PSG est maudit, Neymar est maudit, c'est tout le temps comme ça. Donc, on ne règle rien. Ce qu'il faut essayer de voir déjà, c'est le type de blessure. Il y a plein de blessures différentes. Il y a des blessures musculaires, là c'est le cas. Il y a des coups qu'il prend. Il y a des fractures, notamment son métatarse, c'est arrivé deux fois. Donc c'est aussi difficile de choisir là-dedans, parce que si c'était toujours des blessures musculaires, on pourrait se dire bon, peut-être que là il y a beaucoup de sa faute. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est exempt de tout reproche, évidemment. Moi déjà, j'ai envie de redémarrer dès le début par la question toute simple. Quand PSG en Coupe de France, fallait-il faire jouer Neymar, tout simplement déjà? Ben, moi, j'ai envie de répondre oui, parce qu'à un moment, tout simplement, il faut bien qu'il joue Neymar. Il loupe des matchs en pagaille depuis qu'il arrive au PSG pour diverses raisons. À Marseille, avant Marseille, il a cette histoire de gastro-entérite, il ne peut pas jouer le match, il joue juste une petite demi-heure, il me semble, ou 25 minutes. Donc, il faut toujours s'adapter aussi à sa condition physique. Il fallait bien qu'il retrouve du rythme. S'il avait pu jouer à Marseille, qu'il n'y avait pas eu cette histoire de gastro, peut-être qu'il aurait soufflé mercredi et rejoué contre Nice. Mais en tout cas, une chose est sûre, il fallait qu'il joue. Et si je devais peut-être choisir un de ces matchs pour ne pas le faire entrer en jeu, ça aurait peut-être été Marseille, parce que PSG menait, et surtout il y avait le passif avec Alvaro González. C'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que dans la galaxie des très grands joueurs aujourd'hui, c'est le seul avec qui on pose la question de la mise sous cloche.
Ouais, alors, on peut peut-être rappeler d'ailleurs les petites statistiques depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, donc en 2017, et remarquer que finalement, parmi les grands joueurs, il n'y a que Dembélé, Ousmane Dembélé, qui a joué moins de matchs que lui, puisqu'il en a raté 85, Neymar 64, même Hazard, on a raté moins, hein, Hazard qu'on brocarde beaucoup là, hein, depuis quelques temps, depuis son arrivée au Real Madrid, on n'en a raté que 53, Mbappé, et après ça descend très vite, hein, on a fait un choix évidemment, Mbappé 17, Ronaldo et Messi, qui sont quand même les deux vers lesquels Neymar tend ou aimerait être, n'ont raté que 12 matchs depuis 2017, sur blessure encore une fois. Hein. C'est Griezmann 4 et Mo Salah 3. Ça aussi, ça dit quelque chose, Maxime, c'est qu'on peut être un grand joueur, ne pas forcément être la cible des tacles de boucher ou être la cible des tacles de boucher un peu partout en Europe, malgré tout s'en sortir. Pour moi, si tu me permets, Maxime, ça dit deux choses aussi quand même, parce que je me suis penché sur d'autres statistiques. En 2018, donc il est déjà au Paris Saint-Germain, Neymar, c'est 5,1 fautes subies par match, et Messi en Liga, qui a un jeu, c'est pas un jeu comparable parce que c'est différent, mais il est aussi dans la provocation, dans le dribble, dans une autre forme de provocation sans doute, mais dans le dribble. Il est à 2,4 fautes par match, donc deux fois moins. Ça dit quoi ? Ça dit deux choses pour moi. Ça dit que la Liga me paraît quand même un petit peu plus brutale que certains autres championnats, et notamment la Liga. Et donc, c'est sûr qu'il est plus exposé en Ligue 1 qu'en Liga, parce que souvenons-nous quand même que Neymar, avant, jouait en Liga, et sur ses trois dernières saisons dans le championnat d'Espagne, il n'avait raté que 4 matchs sur blessure, qu'en championnat d'Espagne, hein, je ne parle pas des autres compétitions. Donc, c'est très, très peu. Il y a l'âge aussi, hein, qui avance, qui font que tu es plus fragile. Ça dit autre chose aussi, je pense, c'est qu'on se concentre plus sur lui à Paris que quand il était à Barcelone, où il y avait Messi, où il y avait Suarez. Là, ce qui est certain, c'est que les adversaires se concentrent évidemment sur Neymar. Après, ça veut dire quoi se concentrer ? Est-ce que c'est du vice ? Est-ce que c'est de la brutalité ? Soit parce qu'ils sont, ils sont dépassés, c'est tout ce qui reste en fait aux adversaires de se payer Neymar, ou alors parce qu'ils sont sinon dans une stratégie d'intimidation. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la Ligue 1 est plus brutale que certains autres championnats, et notamment la Ligue 1, Maxime.
C'est le fameux championnat plus tactique. Voilà. Non, mais après, tu as raison, et moi je me suis entre guillemets amusé à regarder les images, retrouver les images.
Et juste, je viens de repenser à un truc, je ne sais pas si tu te souviens de. À l'époque, il y avait eu tout un débat déjà à cette époque-là, quand Neymar s'était blessé, il me semble que c'était en 2018 justement, où il y avait Ismaïla Sarr qui se faisait attraper tous les week-ends aussi, où il y avait Fekir aussi qui se faisait attraper, la chaussette en sang, etc. C'est vrai que c'est des choses que tu vois plus en Ligue 1 qu'ailleurs quand même, malgré tout, j'ai l'impression. Et je me souviens qu'Ismaïla Sarr, et notamment par Théophile Catherine, je me souviens qu'il avait complètement séché. C'est un championnat, il est vrai, où je pense qu'il est plus explosé à la blessure.
Ouais, il est plus exposé. Après, quand tu regardes les blessures successives de Neymar qui lui ont fait rater les huitièmes de finale de Ligue des Champions, notamment ou les matchs retour, il y a Bounassar, donc la blessure contre Marseille, il y a contre Strasbourg avec Zemzemi et celle de Yago en 2021. Sur ces blessures-là, il y en a une qui est vraiment scandaleuse. Et là, ça pose la question de la protection du joueur. C'est pour moi Zemzemi. Sur 5 mètres,
Donc Strasbourg.
Strasbourg, pardon, en Coupe de France, il le suit et essaye clairement de se le faire, tout simplement. On voit très bien que une fois, deux fois, trois fois, il n'y arrive pas, ou à la troisième fois, il y arrive et la blessure est terrible. Mais on se dit à ce moment-là, c'est aussi le rôle de l'arbitre de dire, il faut siffler avant là, parce que ça se voit tout de suite qu'il veut l'attraper. Alors, je ne dis pas qu'il y a du vice dans le sens où il veut lui faire mal, mais en tout cas, il veut l'attraper. Et ça, honnêtement, on doit sanctionner ces gestes-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que la Ligue 1 a un côté sans doute un peu plus dur et un peu plus brut dessus. Il y a aussi autre chose, et Neymar ne peut pas complètement se dédouaner de ça. Il y a l'image qu'il renvoie, Neymar aussi, tout simplement. C'est un joueur d'exception qui provoque avec ses pieds, mais c'est aussi un joueur qui parfois provoque aussi avec les mots et son comportement. Et bien, il y a des joueurs qui en sont en face, qui vont se dire, bah, écoute, toi, je vais t'attraper. Il y a 5-0, tu fais ton sombrero, tu as voulu un petit peu m'humilier, j'y vais. Est-ce que ça dit que c'est acceptable? Non, ce n'est pas acceptable. Et l'arbitre
Exactement,
doit
c'est ce que j'allais
évidemment
dire. C'est ce que
le
j'allais dire.
sanctionner. Ça lui était déjà arrivé, moi je me souviens en Liga, il y a deux, trois fois aussi, c'est son jeu, voilà, de faire le show. Et ben, les adversaires en face, ils ne le prennent pas bien. Moi, si je viens vous narguer dans la rue demain, vous aurez sûrement envie de m'en mettre une. Et ce n'est pas pour ça que ça justifiera la violence, mais c'est peut-être aussi à lui aussi de mettre un peu, j'allais dire, d'eau dans son vin là-dessus, qui continue à être le joueur qu'il est avec ses pieds, mais peut-être un peu moins. Voilà. Il me fait penser un peu à l'époque à Marcelo Gallardo qui avait ce côté-là. Voilà. Parce que tu as parlé tout à l'heure de Ronaldo, de Messi. Prend des joueurs quand même comme Zidane qui étaient des dribbleurs incroyables et des fois il y a des dribbles de Zidane on se disait c'est désarmant de facilité et quand vous êtes en face ça doit être dur à accepter. Il se faisait pas sécher, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi le comportement, je me suis replongé aussi pour les plus anciens qui connaissent Chris Waddle qui était un joueur qui était capable de s'arrêter sur le terrain mais de vous donner l'impression d'humilier le type en face mais de le faire entre guillemets avec le sourire, bah, ça change beaucoup de choses. Encore une fois, ça n'excuse évidemment pas le comportement d'adversaire parce qu'on peut ne pas, on ne peut pas accepter la violence, mais c'est aussi, c'est dans le jeu, voilà.
Il le reconnaît lui-même parce que j'ai retrouvé
Oui.
une de ses déclarations où il dit, ils me mettent des coups et moi je joue au foot, ils provoquent, mais moi je sais aussi provoquer
Mais
à ma
oui.
façon avec le ballon.
Oui, voilà. Et des fois, je pense qu'il y a des mots aussi. Mais encore une fois, c'est pas dire tout est blanc et tout est noir sur un adversaire. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas accepter de la violence sur un terrain. Mais n'empêche que peut-être qu'il gagnerait peut-être des fois à être joué plus simple là-dessus. Et ça n'empêcherait pas de prendre du plaisir et d'être performant. Voilà. Parce qu'à la fin, quand vous prenez à la fin, qui est pénalisé? Finalement, c'est lui et le Paris Saint-Germain. Et mardi, on va quand même avoir un PSG Barcelone sans Di Maria et sans Neymar, et ça c'est hyper regrettable. Après, Martin se pose la question de sa fragilité, tout simplement. Est-ce que c'est un joueur fragile, Neymar?
C'est difficile de répondre à cette question. Il y a eu une fragilité. Comme je disais tout à l'heure, en Liga, il était beaucoup moins blessé. Hein. Je rappelle 4 matchs seulement qu'il avait ratés sur les 3 dernières saisons, uniquement en championnat d'Espagne, sur blessure. Là, depuis qu'il est arrivé en France et au Paris Saint-Germain, il n'a joué, pardon, que 54% des matchs depuis 2017. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques suspensions quand même, parce qu'il s'est pris quelques cartons rouges, notamment cette année. Hein. Il y a quelques suspensions. Il y a quelques retours de voyage, de matchs internationaux. Il y a quelques fois aussi, on l'a mis sous cloche. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de blessures. Alors, il y a eu la cheville, il y a eu le métatarse, il y a eu les adducteurs cette année. Et je pense qu'il y a une fragilité aujourd'hui à la cheville. Ça, c'est une certitude, puisqu'il y a une rechute l'année d'après. Il se blesse, si je ne dis pas de bêtises, Maxime, tu m'arrêtes. 2018, il se blesse. 2019, il rechute
Voilà.
exactement au même endroit. Donc là, il y a une fragilité. Et je pense que jusqu'à la fin de sa carrière, il y aura une fragilité à ce niveau-là. Les adducteurs, ça dit autre chose. Les blessures musculaires, Maxime, ça dit autre chose. On parle peut-être et sans doute aussi de ce qu'il doit faire hors du terrain, qu'il ne fait peut-être pas à 100%. On pense à un Cristiano Ronaldo qui est absolument irréprochable dans son hygiène de vie, qui la met d'ailleurs beaucoup en scène aussi, mais je pense que ça correspond aussi à une réalité. Il n'y a qu'à voir son taux de masse graisseuse. Enfin, c'est délirant, surtout à
Le même
son
que le
âge.
mien, je crois.
Tout petit peu au-dessus, mais je crois
Il y a un zéro en plus.
que mais toujours est-il que Ronaldo, c'est un moine. Voilà, tout simplement, c'est un moine. Et c'est pour ça qu'il dure. Neymar, je ne suis pas sûr qu'il dure autant, mais parce qu'il y a une autre philosophie de vie derrière. Et moi, je ne condamne ni Neymar ni Cristiano Ronaldo. C'est des choix de vie différents. Mais je ne suis pas sûr que Neymar fasse tout ce qui est en son pouvoir pour être au top le jour J. Et c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui ses blessures musculaires. Encore une fois, la cheville, tout ça, c'est des coups, c'est différent. Ce qui lui arrive aujourd'hui peut peut-être s'expliquer par ce prisme-là.
Alors, pour le métatarse, moi, je mettrai un petit bémol sur la deuxième blessure. Parce que souvenez-vous de l'enchaînement des choses. Il se blesse en 2018. Il veut jouer la Coupe du Monde.
Oui.
Voilà. Et je comprends évidemment qu'on veut.
Ça, on ne peut pas lui en vouloir.
On peut pas lui en vouloir. Oui, mais n'empêche, je pense que peut-être que si tu accélères le temps de cicatrisation, de tout ce que tu veux, tu crées une fragilité. C'est, là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. Voilà. Donc peut-être qu'il a aussi, entre guillemets, créé cette fragilité par l'envie de jouer le mondial. Et encore une fois, je le répète, comme tu dis, tu ne le condamnes pas pour ses choix. Ben, on ne peut pas le condamner pour avoir envie de jouer une Coupe du Monde. Qui n'aurait pas envie? Maintenant. Ce vendredi, dans l'équipe, un article fait parler à un des insiders du PSG qui dit ils ont peut-être des petits doutes sur justement ce qu'il fait à côté. Alors moi, ce que j'ai envie de dire au Paris Saint-Germain, c'est que si c'est le cas, il va falloir prendre les choses en main. Il faut lui mettre un nutritionniste, il faut l'accompagner, il faut accepter peut-être de lui dire les choses, de lui interdire. Alors, il n'en a pas fait cette année, ses fêtes d'anniversaire XXL, ou même l'entraîneur se rend. Voilà, tout simplement. C'est peut-être aussi de prendre les choses par la main, parce que tout le monde. Enfin, sinon, ça va se terminer par quoi? Par du gâchis. Et avouez que ce serait dommage de se dire que le Paris Saint-Germain se fait éliminer à Barcelone en se disant ah oui, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Di Maria non plus. Voilà, donc il faut peut-être aussi que. Tout le monde essaye de remettre à plat, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi les instances, c'est-à-dire qu'on parle de la protection des artistes. Oui, tu l'as dit, oui. Il y a peut-être un championnat où il faut, bah, après coup, je reviens toujours avec la faute contre Strasbourg. Moi, cette faute-là, franchement, c'est une faute des années 80. Et, alors, il y avait des excuses après le match du joueur en question, je me souviens très bien. Il y a un moment, on se dit, là, il va vraiment pour le découper. Et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui.
Après, sur la protection des artistes, Maxime, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Moi, je suis plutôt de l'école Pep Guardiola. Guardiola qui déclare en 2018, je n'ai aucun doute sur le fait que Dele Alli et Harry Kane soient de super joueurs. Je n'ai pas de soupçon sur eux. Je ne pense pas que ce sont des joueurs dangereux. Mais il faut les protéger autant qu'un Nicolas Otamendi.
Ah oui.
Autant Nicolas Otamendi qu'Harry Kane. Et c'est ça la question que ça pose, c'est… Est-ce que la protection d'un joueur doit dépendre du caractère, du degré de spectacularité, si j'oserais, de son jeu? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on peut, il faut qu'il y ait une homogénéité dans l'arbitrage. Mais... On ne peut pas arbitrer en fonction du profil, en fonction du statut. On ne s'en sort pas. Dans ce cas, pourquoi on serait plus clément? On ne serait pas plus clément, je ne sais pas, moi, on peut tout imaginer pour les très jeunes joueurs qui sont peut-être plus fragiles ou pour les joueurs qui sont vers la retraite qu'on pourrait protéger aussi. Enfin, après, on peut mettre le curseur où on veut, on peut tout imaginer. Pour moi, il faut être impartial et homogène.
Ah oui, mais après, Otamendi s'est beaucoup moins fait découper dans sa carrière que Messi, tu vois.
Tout à fait, mais de la même façon, je ne vois pas pourquoi on instaurait une… Parce que la protection… Des artistes, ça implique une certaine règle pour.
Enfin, artistes, non, c'est on peut avoir des comment dire, partir du principe que protéger plus la construction, tout simplement, voilà, dans la logique. En effet, comme tu dis, mais je pense qu'à sa manière, un joueur comme Neymar va plus attirer le coup de sifflet que, comme tu l'as dit, le petit jeune de Ligue 1 qui fait ses quadrilles, parce que c'est Neymar, c'est un peu comme en NBA, les fautes qu'on siffle à LeBron James et qu'on siffle à Michael Jordan, on les siffle pas à tout le monde, voilà. Je pense qu'on est un peu dans la même logique. Après, comme
après,
tu dis,
on va pas mettre un carton rouge chaque fois que Neymar se fait ticher. Enfin, voilà.
Ah non, parce que.
Ben voilà, c'est ça. Donc, c'est pour moi, c'est très compliqué cette notion. C'est presque philosophique comme débat. Cette notion de protéger les artistes, protéger les créateurs, protéger. Je sais pas. Défendre, c'est un art aussi.
Tout à fait. Non, mais.
Voilà.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais on en est à ça. C'est défendre, c'est un art. Et moi, tu me connais. J'aime bien le jeu sale.
Oui. En plus, oui.
Donc, en plus, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que je reviens toujours. Je suis désolé à Strasbourg. Quand je vois que le joueur, il va trois fois de suite.
Ça, c'est autre chose. Mais ça,
je sais qu'il va, il y va pour lui faire mal. Voilà. Et qu'à un moment, c'est ça qui est pas acceptable. Voilà. Des chocs, des contacts. Moi, je suis le premier à dire des fois. Voilà, on s'énerve sur un joueur, un boucher, un truc comme ça. Bah, il arrive des fois de. Pas maîtriser un geste, de glisser sur le ballon, de se retrouver sur le tibia du joueur, ça fait pas de vous un joueur méchant, voilà.
Et l'intimidation, encore une fois, fait partie au même titre que la provocation de Neymar. L'intimidation, ça fait partie aussi, c'est ça rentrer dans la tête de son adversaire d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est un moyen aussi de faire gagner un match à son équipe. Donc je vois pas, enfin c'est pas sanctionnable en fait d'intimider pour moi.
Dans le football.
Si on reste dans les règles.
Ouais, voilà. Dans les règles. Mais le problème, c'est que encore une fois, moi, j'ai rien contre ça, mais la ligne est toujours très ténue entre les règles et l'autre côté. Voilà.
On en a terminé avec Neymar, Maxime ?
Ah bon, on pourra en parler longtemps parce que c'est ce qu'on a dit, c'est tellement vaste comme sujet parce que la question à qui la faute, elle n'a pas de réponse, voilà, tout simplement. Et la complexité, c'est ça. Et à l'arrivée, c'est juste qu'on se retrouve mardi avec un match sans Neymar et sans Di Maria, même si c'est autre chose. On est en croisant les doigts aussi pour le PSG, qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent ce week-end.
Ah oui, ce serait vraiment terrible. Allez, on va passer à Nantes qui a alors pas des problèmes de superstar, mais des problèmes de coach, des problèmes de résultats. Le FC Nantes barragiste qui a licencié Raymond Domenech, c'était mercredi, dans une journée absolument folle, puisque Raymond Domenech fait un premier test en Covid qu'il annonce positif, puis après une contre-expertise qui annonce négatif, finalement il s'avère que normalement il ne l'a pas, mais donc il n'est pas sur le banc pour le 32e de finale face à Lens. Malgré tout, il donne ses consignes au téléphone à Robert Duverne, pardon, et pendant le match, la presse est mise au courant que il n'est plus l'entraîneur du FC Nantes qui sera licencié à l'issue du match. Donc, quelque chose d'absolument dingue, c'est-à-dire qu'il va. Je me demande si c'est déjà arrivé, un entraîneur licencié qui est aux commandes de son équipe pendant un match, ça me paraît complètement dingue. Ça dit tout du FC Nantes. Et voilà qu'Antoine Camboré a donc débarqué, conférence de presse jeudi, une conférence de presse là aussi un tout petit peu lunaire. Donc Camboré, alors pourquoi Camboré arrive à Nantes? Pourquoi Nantes a choisi Camboré? Pourquoi Camboré a choisi Nantes? Pour moi, ni l'un ni l'autre n'avait le choix. Camboré a annoncé en conférence de presse avec la sincérité qu'il caractérise. C'est-à-dire que Camboré, ce n'est pas quelqu'un qui va jouer un jeu. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça va mal se passer à Nantes. C'est-à-dire que si ça se passe mal avec l'Equita, ne vous inquiétez pas qu'il balancera des scuds en conférence de presse. Donc, il a avoué hier, de façon un peu, je pense que de façon un peu folle, qu'il avait refusé deux fois le FC Nantes. Là, c'était la troisième fois et cette fois, il y allait. Pas une, hein, deux fois, il a refusé. Dont une fois où je crois il avait
débordé un peu.
Il ne voulait pas franchement travailler avec Kita. Alors pourquoi il accepte maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser finalement. Pas parce que Nantes est au plus mal, parce que c'est son club de cœur qui veut le sauver. Alors peut-être que ça joue, mais je pense que les fois où on est allé le chercher, Nantes ne devait pas aller super bien non plus. Non, c'est parce que c'est lui aussi qui est au plus mal. Parce qu'il reste sur 13 matchs. Et deux mois et demi à Toulouse seulement pour 11 défaites. Il reste sur 25 matchs et 6 mois seulement à Dijon. Donc, deux aventures qui ont fatalement écorné son image de la statue du guerrier qui va sauver les clubs de la Ligue 2. Non, ça, c'est fini, Antoine Camboré. Et c'est un peu sa dernière carte, le FC Nantes. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui va le plus mal entre le FC Nantes et Antoine Camboré. Ils sont tous les deux dans les abîmes, mais c'est pour ça qu'ils s'y sont retrouvés. C'est qu'aujourd'hui, il faut oublier les Laurent Blanc, les Patrick Vieira, c'est des rumeurs qui couraient pour reprendre le FC Nantes. Alors, avant Raymond Domenech, mais qu'est-ce qu'ils iraient faire là-bas, Vieira et Laurent Blanc? Aujourd'hui, Nantes, à cause de la gestion catastrophique de Kita, je ne parle même pas des résultats, je parle de sa façon de fonctionner aujourd'hui, le club est soumis au désirata d'un seul et même homme qui réfléchit sur des coups de tête, sur des coups de cœur aussi, il va chercher les entraîneurs, puis après il les boule. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec son interventionnisme, ses façons archaïques de gérer le club, Kita, il ne peut qu'avoir ce genre de coach, des coachs qui sont un petit peu à la dérive. Qui va aller dans ce bourbier? Domenech, parce que Domenech, c'était inespéré, ça faisait 10 ans qu'il il entraînait plus. T'es hors de la carte, Domenech. Donc, tu vas le chercher, forcément, il vient. Et Camboré.
Ouais, c'est très compliqué, comme tu as dit. Raymond Domenech, c'était un peu un. C'était pas nice na, mais il y avait quelque chose aussi surréaliste dans cette journée, comme tu as dit. Le Covid, pas le Covid, il est à la mi-temps, il est viré, mais il continue à diriger le match. Enfin, c'est complètement aberrant. Et finalement, alors nous, on était déjà très pessimistes sur ça au moment de sa nomination, parce que 10 ans sans entraîner, c'est pas anodin. J'aurais pas parié que ça se termine au bout de 42 jours quand même. Voilà. Maintenant, c'est Camboré. Alors Camboré, moi, j'ai rien contre. On pourrait dire la filiation nantaise, mais le problème, j'ai l'impression que c'est un peu le moins nantais des Nantais, finalement, Camboré. Et s'il y en avait
Il a dit, je me permets juste, Maxime, en conférence de presse hier, je rêvais pas d'entraîner le FC Nantes.
Ça, c'est...
Non, mais c'est fantastique.
Non, mais en fait, voilà, c'est là que tu dis, en fait, tu t'as dit tout à l'heure, c'est problème de choix et il y a problème d'envie. L'envie, c'est important. Je pense au moins que Domenech avait envie d'entraîner. Là, on a l'impression, comme tu dis, bah, la fin justifie les moyens. Écoute, je vais venir voir, j'ai essayé 2 ans et demi, ça se passe bien, je reste. Si ça se passe pas bien, je m'en vais. Ça arrive souvent que des entraîneurs le disent et fassent ainsi. Enfin bon, là, on sent presque que ça ne va pas bien se terminer, mais qu'on aura vu, on aura essayé. Voilà, le FC Nantes, c'est terrible. Moi, j'ai l'impression que le FC Nantes, aujourd'hui, déjà, première question, je ne sais pas où est le plaisir pour Valdemar Quitta, même lui, parce que c'est quand même important de prendre du plaisir. Et ici, il pense que...
Je pourrais te répondre à cette question, si tu... Enfin, mais... Je pense qu'il y a, comme dans...
C'est l'orgueil.
Non, alors, non, je ne pense pas que ce soit l'orgueil. Il y a beaucoup de présidents de Ligue 1. Tu sais, ils ont réussi leur vie dans les affaires.
Oui, mais...
Non, mais ils ont réussi leur vie, ils ont beaucoup d'argent. Et avoir un club de Ligue 1, c'est plusieurs choses. C'est exister médiatiquement.
C'est une danseuse
aussi. Ce que ne leur permet pas leur entreprise, même s'ils ont eu tous les succès au monde, bah, ça ne leur permet pas ça. Et aussi avoir une sorte d'emprise ou de peser dans les institutions du football français, etc. Et ça, je pense que ça compte. Oui, mais... quand on se place du point de vue de Valdemar Quitta, effectivement, entre les moins et les...
Quoi ? Il n'y a plus de plaisir, c'est pas possible. Enfin, oui, sinon, c'est sadomasochiste.
Je pense qu'il est plus détaché que nous des critiques qu'il touche. Je pense que vraiment, il est dans ses bureaux parisiens. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on lui remonte. Ses présidents, ils sont dans des sortes de tours d'ivoire. Je ne suis pas sûr. À Nantes, il y a très peu de contre-pouvoir. Il n'y a pas de DG. C'est son fils qui est délégué. Enfin, tu vois, je ne suis pas sûr qu'on lui remonte tout. Quoi.
Moi, la gestion du FC Nantes aujourd'hui, ça me fait penser à la gestion d'un club dans les années 80 avec un président fort en gueule qui décide de tout. Voilà, ça existait. Mais
c'est ça. Hein, ça
alors, je ne vais pas citer Claude Béz et Bernard Tapie parce qu'ils ont réussi dans leur club respectif, mais il y a ce côté un peu anachronique aujourd'hui du président qui est là, qui décide de tout sur un coup de tête, qui prend un entraîneur au mois de décembre et qui le vire au début février. J'ai l'impression que c'était des méthodes d'avant. Et prenez Bernard Tapie quand il prend Marc Bourrier, il prend Jean Fernandez, il le dégage, Jérémy Gotthals, Tomislav Ivic, etc. Sauf que ça marchait. Voilà, lui, ça ne marche pas et pas du tout. Et justement, c'est complètement anachronique aujourd'hui. Et regardez, encore une fois, on se compare toujours aux autres pays. Des présidents comme ça dans les clubs qui comptent à l'étranger, ça n'existe plus. Ça ne marche plus. Donc, tant que Nantes...
Ou du moins, continuera... ça peut exister, mais il y a des garde-fous. Il y a des directeurs sportifs. Il y a des directeurs...
Oui, mais donc, ça n'existe plus. Tu ne les entends pas autant, tu vois ce que je veux dire. Tout ne repose pas sur leurs propres décisions.
Oui, ouais.
Tu vois, c'est pas Jesús Ribéry à l'Atlético à l'époque qui faisait la pluie et le beau temps. C'est pour moi d'une autre époque. Maintenant, est-ce que Comboiré peut sauver le FC Nantes? Je n'ai pas la solution parce que finalement, il y a peut-être plus nul que le FC Nantes en Ligue 1 et c'est ce qui pourrait les aider à rester. Mais quand même, il y a de quoi être sacrément inquiet. Et
moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que quand tu perds Christian Gourcuff. Gourcuff, c'est une certaine idée du jeu, pourquoi pas? Tu vas dans cette veine-là, et après tu mets Domenech puis Comboiré. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune volonté de construire quelque chose, même si tu. Là, imaginons, Domenech se termine. Mais tu peux essayer de, je ne sais pas, lancer quelqu'un de ta formation, je ne sais pas, Ziani par exemple, Habib Bey, voilà des noms qui circulent. Après, il y a la question de est-ce que ces gens-là veulent venir au FC Nantes?
Non, mais il faut appuyer sur le bouton reset à Nantes. Alors, j'imagine qu'ils n'auront pas la même réussite que dans les années 90 avec l'équipe de 95 parce que ce n'est pas la même époque. Mais à un moment, ça ne marche pas comme ça, les joueurs ne vont pas. Et au moins qu'ils fassent un all-in. Tant qu'à détruire le club, entre guillemets, autant aller au bout et il y aura peut-être une bonne surprise derrière. Parce que là, ça va où là? Ça va nulle part. Ça va nulle part. Donc en gros, ils vont végéter comme ça des années, puis à un moment, ça va redescendre. Je ne vois pas quelle solution, à part qu'il y a une génération spontanée qui arrive de la formation, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Mais au pire, autant tenter ça parce que pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Ce que dit Comboiré sur ses joueurs en conférence de presse, c'est terrible. Enfin, en gros, le type arrive et il vous fait savoir que vous n'êtes pas bon. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être une méthode de management. Comme tu l'as dit, Comboiré, il dit pas le contraire de ce qu'il pense. Enfin bon, quand même, je n'ai jamais vu d'équipe où il était bon, surtout d'arriver. En plus, Comboiré, comme tu l'as dit, ce n'est pas Mourinho. Non. Mourinho qui arrive dans un club comme ça,
c'est vrai.
D'aujourd'hui, qui arriverait et qui dirait les gars, vous êtes nuls, faites ce que je vais vous montrer, ça va marcher. Moi, j'ai fait mes preuves. Comboiré, malheureusement, même s'il a été plutôt bon à un moment de sa carrière, sur les dernières années, c'est plus ça. Donc, il faut aussi suivre ce discours, et ce discours-là, faut l'assumer. Et j'ai peur que ce soit très compliqué.
Allez, on va terminer là-dessus, Maxime. On a fait le tour du FC Nantes et on va terminer avec le Bayern Munich. Pourquoi le Bayern Munich? Parce que, les Bavarois ont remporté hier leur 6e titres en moins d'un an en remportant le mondial des clubs face aux Tigresses d'André-Pierre Gignac. C'est le score parfait, c'est-à-dire on va rappeler les six titres du Bayern Munich. Je vais essayer de rien oublier. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe et donc le mondial des clubs. Six titres. Ce n'est pas la première fois, puisque le FC Barcelone avait réussi pareil exploit. C'était en 2009, l'équipe de Messi et de Guardiola, d'Iniesta et de Xavi. On va se poser une question simple, puisque c'est si rare qu'une équipe rafle tout. Est-ce que ce Bayern-là… Alors, j'ai choisi une question un peu provocatrice, parce que, évidemment, c'est très dur d'avoir du recul par rapport à cette question-là. Mais est-ce que ce Bayern est la plus grande équipe de l'histoire? Est-ce que c'est plus grand que le Barça de 2009? Est-ce que c'est plus grand que les grandes équipes des années 70, 80, 90? Où placer ce Bayern-là dans l'histoire des clubs? Maxime, je te laisse la parole.
La place de ce Bayern dans l'histoire, elle est évidemment tout en haut parce qu'on ne gagne pas 6 titres par hasard. Tu l'as dit, seul le Barça de 2009 l'a fait. Alors, on parlera après des palmarès et du nombre de titres et de l'inflation des trophées qui n'étaient pas la même dans les années 80 notamment. Mais ça dit évidemment quelque chose parce que c'est une équipe implacable. Hansi Flick, il n'a perdu que 5 matchs depuis qu'il est au Bayern. Donc, il a gagné plus de trophées qu'il a perdu de matchs. Ça dit quelque chose. Maintenant, on peut aussi être grand par l'empreinte qu'on laisse. Les Pays-Bas 74 ne gagnent pas la Coupe du Monde, justement, de 74. C'est la RFA. Et pourtant, l'empreinte est beaucoup plus importante, celle des Pays-Bas, que celle de cette Allemagne de l'Ouest. Maintenant, si je devais déjà, en premier temps, comparer le Barça 2009 et le Bayern 2020, moi, je mettrais le Barça de 2009 au-dessus. Pourquoi ? Parce que derrière ce Barça, il y a une révolution identitaire, voilà, tout simplement. Et ça, ça compte. C'est aussi ça qui reste. Pour moi, justement, le Barça 2009, c'est les Pays-Bas qui auraient gagné la Coupe du Monde. Voilà. Là, c'est la plénitude absolue. C'est les six titres et une équipe qui arrive et vous dites… Waouh, c'est dingue ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'est en train de faire Guardiola, c'est exceptionnel. On a moins cette impression-là avec ce Bayern-là. Après, puisque je sors un peu du palmarès, moi je ne suis pas persuadé, par exemple, que le Barça de 2009 soit la meilleure version des Barça de Guardiola. Le Barça de 2011, il gagne moins, entre guillemets, mais à mes yeux, c'est presque une version plus accomplie, plus définitive, pour preuve, la finale de la Ligue des Champions contre Manchester United à Wembley. Et aussi, après, ça devient moins bien. Et c'est justement de ce moment-là que Guardiola se dit qu'on va peut-être passer à quelque chose. Il essaye les deux défenseurs et puis il partira à la fin de l'année 2012. Donc voilà. Pour moi, le duel justement entre ce Barça 2009 et ce Bayern 2020, c'est un peu l'Ajax et le Bayern des années 70. C'est-à-dire qu'il y a une révolution qui gagne et une équipe qui est beaucoup plus machinale, beaucoup plus allemande, il faut le dire. Et ça, malheureusement… Moi, j'ai toujours adoré le Bayern, ça, vous le savez certainement. Mais c'est des équipes qu'on respecte plus qu'on les admire, voilà, tout simplement. Et c'est aussi lié au club, parce que tout simplement, ce n'est pas des clubs marketés. Lewandowski serait au Real, je peux vous dire que ce serait encore plus une immense star parce qu'il serait mis en avant, ce qui n'est pas le cas au Bayern. Voilà. Le Bayern, c'est un peu la force tranquille, c'est la puissance d'une équipe. Et ça se respecte plus que ça s'admire. C'est peut-être un peu injuste, mais il y a de ça, même si, encore une fois, même au-delà de toutes ces choses, je mets quand même le Barça au-dessus. Mais spoiler pour la suite, je ne suis même pas sûr de mettre le Barça tout au sommet des plus grandes équipes de l'histoire.
Si on s'en tient au palmarès, moi, ce qui compte pour moi, si on devait avoir ce débat, c'est la Coupe nationale, parce que ça montre la profondeur de ton effectif. Le championnat, parce qu'évidemment, tu as une régularité. Et la Ligue des Champions, parce que c'est la compétitivité absolue, poussée à son paroxysme. Donc, quand tu gagnes ces trois-là, pour moi, ça peut suffire. Super Coupe d'Europe, c'est un match. Mondial des clubs, ça dépend de qui t'as. Enfin, voilà, pour moi, et Super Coupe nationale, pour moi, ça ne signifie rien. Trophée des champions, etc., ça ne signifie rien. Donc, si on s'en borne à la Coupe nationale, au championnat, à la Ligue des Champions, il n'y a que six équipes qui avaient gagné jusque-là, qui avaient fait ce triplé. Le Barça était le seul jusqu'ici à avoir fait deux fois. Maintenant, le Bayern l'a fait deux fois. Sinon, il y a le Celtic 66-67, l'Ajax 71-72, le PSV 87-88, Manchester 98-99 et l'Inter 2009-2010. On s'en souvient tous de l'Inter 2009-2010, c'est peut-être plus proche de nous. Est-ce que ces équipes, elles ont marqué l'histoire du foot? Je ne dirais pas forcément toutes. S'il en reste une, Maxime, ça c'est certain, tu l'as dit, c'est l'Ajax de Cruyff de Niskens, parce qu'il y a une sorte de révolution, c'est le Bayern aussi, et donc pour moi, celles-ci sont au-dessus. Le Bayern de 76, qui a gagné trois Ligues des Champions d'affilée, aussi parce que quand même, il y a trois Ligues des Champions d'affilée, il y a aussi Müller, Beckenbauer, Sepp Maier, Voilà, pour moi, c'est la Sainte Trinité et ça a quand même marqué l'histoire. Ce Bayern, pour moi, il imprimera les esprits, alors peut-être moins que ces équipes-là, mais s'il imprime les esprits, c'est par son côté implacable. Pour moi, j'ai rarement vu en fait une équipe avec cette maîtrise-là, la maîtrise de tous les paramètres. L'impression, en fait, pour moi, c'est ça le cœur de la chose avec ce Bayern-là, c'est l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Même avec le Barça de Guardiola, parfois, j'avais un peu plus l'impression que c'était sur un fil, la demi-finale face à Chelsea notamment. Là, ce Bayern-là, je vais prendre deux exemples. Alors, moi, ça m'a marqué d'abord le huitième de finale aller à Stamford Bridge cette année. Il se trouve que j'étais au travail, je l'ai regardé. J'ai vu un 3-0 du Bayern Munich et c'était fantastique, c'était fabuleux. C'était Chelsea qui était complètement balayé. Et il y a un marqueur fort aussi dans ce Bayern-là. Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est ce qui marque les esprits. C'est le 8-2. C'est le 8-2 en plus face au Barça et en quart de finale de Ligue des Champions. Et ça, ces marqueurs-là, c'est ce qui fait aussi que tu retiens les équipes dans le temps. Pour moi, c'est hyper important. C'est un marqueur hyper fort. Ça restera. Et si tu additionnes jusqu'en finale ce qu'a fait le Bayern, c'est 7-1 aller-retour face à Chelsea. C'est 8-2 sur un match unique face au Barça. C'est 3-0. Alors, un 3-0 sévère, mais 3-0 quand même face à Lyon en demi-finale sur un seul match. J'ai pas le souvenir de quelque chose d'aussi puissant en fait, d'aussi implacable, et que tu te dises bon bah ok, mais il peut rien leur arriver. Et si ça doit marquer l'histoire d'une certaine façon, ce Bayern là, pour moi ce sera de cette façon là et c'est peut-être pas les plus grands parce qu'il n'y a pas l'empreinte dans le jeu, mais il y a ce côté là qui pour moi fait que ça restera.
Je voudrais ajouter un truc au niveau des palmarès. Là, on dit aussi qu'on est dans la décennie la plus déséquilibrée de l'histoire du foot mondial et du foot européen. Le mondial des clubs, c'est quasiment tout le temps pour les Européens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage maintenant qui est grand entre les Européens et les Sud-Américains. Je dis les Sud-Américains parce qu'avant, il n'y avait qu'eux qui jouaient l'intercontinental face aux Européens. Les championnats, c'est pareil. Le Bayern en est à 8 titres de suite en Bundesliga avant le début de cette série-là. Aucun club n'avait jamais gagné la Bundesliga plus de 3 fois. Ça dit quelque chose aussi du décalage qu'il y a entre les super teams, celles qui veulent faire cette fameuse Super League, et le reste du monde. Prenez le Barça, à la fin des années 90, il me semble, ils réussissent le doublé Coupe-Championnat. Ben, ça faisait 40 ans qu'il n'a pas réussi. Je veux dire, il y avait un football qui était beaucoup plus équilibré et qui, à mes yeux, donc, donne aussi beaucoup plus de valeur à la force d'un triplé parce que c'était plus difficile, tout simplement. Prenez le championnat d'Espagne, peut-être pas cette année encore une fois, mais championnat d'Espagne des années 2010 et prenez au début des années 2000, vous avez Valence, vous avez la Corogne, vous avez le Real, vous avez le Barça qui peuvent gagner. C'est pas exactement la même chose. Donc, elles sont beaucoup plus gloutonnes, ces équipes-là, et forcément, elles gagnent beaucoup plus de choses. Le Bayern, c'est 30 titres en Bundesliga. La Bundesliga, ça existe depuis 1963. Il y en a 8 dans les 8 dernières années. Ça dit quelque chose aussi de ce qui est devenu le football. Et pour revenir à ces équipes et au palmarès, pour finir là-dessus, il y a une équipe qu'on n'a pas encore citée qui, pour moi, est un marqueur absolu et peut-être l'une des plus impressionnantes, si ce n'est la plus impressionnante, c'est le Milan AC de 1989. Il y a le marqueur sur le parcours, c'est le 5-0 en demi-finale aller face au Real Madrid, qui est une démonstration absolue. La finale, victoire 4-0 contre le Steaua Bucarest. Alors, Steaua Bucarest, vous allez me dire, ah oui, mais Steaua Bucarest, sauf que 3 ans avant, Steaua Bucarest était vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions et que c'était une grande équipe de l'époque. Voilà, donc il ne faut juste pas être anachronique là-dessus. Et ce qu'il dit aussi, c'est la révolution qu'il y a. Ce Milan AC a moins gagné en palmarès sur cette année-là. Mais il y a aussi l'empreinte Arrigo Sacchi, bah oui, les trois Néerlandais, Van Basten, Gullit Richcard, oui. Qui laissent une marque indélébile, voilà, qui gagne la Ligue des Champions en 1990 aussi. Donc voilà, ce qui est difficile, c'est de s'appuyer juste sur le palmarès pur et les 6 titres. Parce que justement, à l'époque, la Serie A est aussi un championnat beaucoup plus difficile qu'il faut maîtriser. Et à l'époque, c'est paradoxalement plus difficile quasiment de se qualifier pour la C1, puisqu'il n'y a qu'une place, que de la gagner quand on est champion d'Italie, voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est difficile de comparer aujourd'hui.
Mais tu as raison, quand on parle de Sacchi, de Guardiola et d'Hansi Flick, c'est sûr que l'empreinte technique, alors faudra peut-être qu'Hansi Flick va devenir voilà, totalement, peut-être l'entraîneur de la décennie, je lui souhaite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où on parle, c'est très compliqué de le comparer effectivement à ces deux équipes-là. Et en termes de révolution du jeu, on n'en est pas là. Mais pour moi, c'est la logique Bayern poussée à l'extrême.
Ah oui.
Voilà. Et c'est peut-être c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ce point de vue-là que pour moi, cette équipe-là va marquer l'histoire quand même, malgré tout. Alors, il lui manque effectivement côté révolutionnaire, l'empreinte sur le jeu, que tu fais, que ça devient une référence du jeu. Comme l'a pu l'être un petit peu aussi le club de Liverpool. Le Liverpool de Klopp plutôt, qui a été sacré lui aussi champion d'Europe. Il manque peut-être cette dimension-là. Malgré tout, pour moi, elle marquera quand même.
Ouais, mais de toute façon, je pense que le Bayern n'est pas un club fait pour révolutionner le jeu, tout simplement. C'est aussi son ADN, c'est-à-dire que c'est une machine absolue, comme tu l'as dit. Ce qui fait que ce Bayern a été remarquable, c'est ce côté implacable, poussé jusqu'à l'extrême. Et ce qui a peut-être changé avec le regard pour le Bayern, et même on en parle à la sélection allemande depuis 2006 ou depuis 2010, c'est le regard qu'on a, c'est de se dire, on n'est plus à regarder les Allemands en se disant, ça va être chiant.
Ouais,
ils vont gagner à la fin, en gros, mais on va se faire chier, pour être honnête. Et ce n'est pas forcément l'équipe la plus belle qui va gagner. Et ben, la grande force de ce Bayern-là, je dirais au moins, c'est d'être sorti de ça. On n'est plus à dire, on s'est ennuyé. Non, le Bayern, vous admirez. Vous admirez, parce qu'une fois, je pense qu'on respecte plus qu'on admire. Mais vous regardez, vous vous dites, ce qu'ils font, c'est très, très fort. Évidemment, le 8-2 face au Barça est exceptionnel parce que ça dit aussi la philosophie du Bayern, c'est-à-dire que on continue. Hein. On vous démonter, mais on continue. C'est comme ça, voilà. Entre guillemets, on a l'habitude de dire dans les matchs, on respecte l'adversaire. Non, c'est pas qu'ils respectent l'adversaire, c'est que c'est leur philosophie. Il faut aller jusqu'au bout des choses, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que ce Bayern est fantastique. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce qu'il est parti pour durer et refaire la même. Parce que l'empreinte, elle est là aussi.
Exactement, c'est une vraie belle ouverture. Et le Bayern qui marque les années 70, c'est parce qu'il gagne 3 Ligues des Champions de suite aussi. Et ça, c'est pas rien. Et je crois que d'ailleurs, à l'époque, quand tu gagnais 3 Ligues des Champions de suite, tu la gardais. Il me semble, non ?
Je crois que c'est la Coupe du Monde, ça plutôt.
Et tu la gardais pas quand tu l'as gagné 3 fois de suite ? Il me semble, ça me dit.
C'est pas, j'irai vérifier. Je sais que
c'est un souvenir d'enfance, donc il est fragile parce que, comme vous le voyez sur ma tronche, ça commence à remonter l'enfance. C'était pas hier. En tout cas, Maxime, merci. T'as été brillant aujourd'hui, je dois dire.
Je te renvoie le compliment, Martin.
T'as été digne de Stoney Charden et des To Be Free. Hein. Maxime, vraiment, t'as été brillant. On se retrouve la semaine prochaine. On vous rappelle simplement que si vous voulez retrouver l'intégralité de ce FC Stream Team en image, c'est sur Facebook que ça se passe. Si vous voulez que le son, c'est en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises. voilà. Et si vous voulez les meilleurs moments,
comme les libraires dans les bonnes librairies, il y a les mauvaises aussi qui vendent des bouquins. Hein.
Exactement. Et les meilleurs moments de l'émission, hein, si vous voulez pas vous faire flic parce qu'on a été bavard en plus aujourd'hui, vous allez sur eurosport.fr et puis vous verrez les meilleurs. On appelle ça des pastilles dans notre langage. Les meilleures pastilles sur eurosport.fr. Voilà, vous trouverez tous ces sujets. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Merci Maxime, merci Adrien, et merci Quentin. Oui.
Et vous restez sur Eurosport, l'Open d'Australie, le ski avec les mondiaux, le biathlon. Voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, tout le week-end et toute la semaine même à venir. Donc voilà, restez chez nous.
Le mois de février, c'est moins Eurosport, c'est simple.
Avant, on se régale. Souvent, c'est plus le mois de janvier et là, le Covid a fait qu'on a décalé. On prend la marée.
Exactement, on prend la marée jour après jour. Merci à tous, on se retrouve vendredi prochain. Salut.
Salut.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.